Ok, donc je vais peut-être simplement réintroduire un peu en me répétant peut-être par rapport à la fois passée. Donc au fond, avec cette nouvelle partie, c'est-à-dire le chapitre 13, verset 13 et suivant, on entame quand même une deuxième grande partie des Actes des Apôtres. Puisque les 12 premiers chapitres, finalement, ils parlaient surtout de la Judée et de la Samarie, avec quelques exceptions, hein, comme l'histoire de Corneille, etc. Nous parlons essentiellement du succès de la bonne nouvelle en Judée, en tout cas auprès des Juifs, et un tout petit peu chez les païens. Et au fond, pendant ces 12 chapitres-là, c'est surtout Pierre qui était cité comme le maître d'œuvre de ce qui se passait en Judée-Samarie. Paul, lui, pendant ce temps-là, on l'a vu ensemble, était ailleurs et plus ou moins en formation, on va dire ça comme ça. Tandis qu'à partir de maintenant, on va s'orienter avec un témoignage plus important de Luc, qui devient témoin oculaire pour la plupart du temps, on va s'orienter vers Paul, qui devient enfin l'apôtre, l'apostolat auquel il a été appelé, qui était de s'occuper des païens. Et donc c'est à partir de maintenant que ça bascule. On entendra encore un tout petit peu parler de Pierre, mais globalement, c'est maintenant le ministère de Paul qui est sous le focus de l'évangéliste Luc. Et donc aussi, à partir de maintenant, chapitre 13, on va commencer à suivre Paul dans ses voyages missionnaires. Ok, donc désolé, on avait un tout petit peu commencé l'intro.
C'est nous qui sommes en retard.
Donc j'étais juste en train de refaire un petit peu le constat que j'avais fait la fois passée sur les 12 premiers chapitres, et puis maintenant, qu'est-ce qui change à partir de ce chapitre 13. Et quand vous êtes entré, j'étais en train de dire que on va commencer à assister au voyage missionnaire de Paul, justement. Et quand on regarde la carte derrière, on s'aperçoit qu'il a quand même vachement vadrouillé. Si toutefois on voit toutes les lignes, parce que moi daltonien, je ne vois pas tout non plus. Et donc on verra que dans ces différents voyages vers les païens, Paul remporte aussi, enfin la bonne nouvelle plutôt, remporte aussi un franc succès. Malgré tout. Alors maintenant, pour en revenir à notre récit, puisqu'on avait commencé ce récit dans le chapitre précédent, les premiers versets, donc la fin du chapitre 12, début du chapitre 13, lorsqu'ils sont envoyés par l'église d'Antioche, ils commencent le premier voyage missionnaire, par conséquent, dont on a étudié ce début, par l'île de Chypre, en ayant traversé à partir de Séleucie jusqu'à Chypre, à Salamine, traversé l'île par la côte jusqu'à Paphos, là où il y a eu cette histoire avec l'officier romain de la province. Et maintenant, donc, on attaque avec le chapitre 13-13, on attaque la suite du voyage, c'est-à-dire l'embarquement à Paphos pour se rendre à Pergé. Voilà. Donc c'est une brève présentation. Et donc je vais essayer de pas tout dévoiler d'un coup. Non, je pense qu'on n'ira pas plus loin que le verset 15 aujourd'hui. Hein, je le dis tout de suite. En fait, je viens directement à la question 4. Est-ce que vous avez trouvé l'information qui se trouve au verset 13, si vous comparez ce verset 13 au verset 4 et 7 du même chapitre?
Oui, j'ai pas compris.
Moi, j'ai mis qu'au verset 4, Jean-Marc les aidait à Chypre. Jean-Marc, c'est la même chose. Oui. Et après, à Paphos, le gouverneur désireux d'entendre la parole de Dieu. J'ai fait ça il y a déjà longtemps. Et au verset 13, Jean-Marc les quitte et on ne sait pas pourquoi. Donc là, il y a des gens qui feront à savoir les aider.
Donc toi, tu t'es focalisé sur Barnabas, ou Barnabé selon les traductions.
C'est le nom de Paul qui change.
Oui, voilà. Mais il avait déjà changé, hein, juste au moment de l'histoire à Paphos, apparemment. Oui. Mais il y a un détail important, que jusque-là, donc si je reprends 13-4...
Que Jean-Marc se sépare d'eux.
Non, il les aide à Chypre.
Laisse Jean-Marc tranquille.
Allez, il y a un autre détail.
Alors oui,
mais ils sont envoyés par le Saint-Esprit.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui change?
Oui, avant, c'était Barnabas le premier.
Avec les bravos. Oui, c'est vrai, il fallait être observateur. Ah, oui. Mais c'est important.
Je n'ai pas écouté, en fait.
Parce que jusque-là, bravo, là aussi.
J'étais en train de chercher.
On va distribuer les bons compagnons. Là, on parle de deux. Et puis...
Et avant, on mettait toujours on disait Barnabas et Paul.
Barnabas et Paul, Barnabas et Paul.
Pourquoi? Et maintenant, c'est Paul et ses compagnons.
C'est Barnabas qui était le mentor. C'est lui qui a formé Paul, c'est lui qui l'a embarqué avec lui, y compris avec cette histoire de l'église d'Antioche qui les envoie. On envoie Barnabas et Paul, et tous les textes le disent. Et tout d'un coup ici, ça change, parce que quelque chose a changé.
Tiens, moi j'ai dit du foi Barnabas et Saul.
Oui, mais regarde bien ton verset 13.
Paul et ses compagnons.
Paul et ses compagnons.
C'est clair en grec que Paul est placé en premier.
En premier maintenant, oui.
Paul, ah oui,
Parce que c'est péripaulon en grec, ça veut dire c'est Paul qui embarque ses copains, finalement. Et là-dedans, il y a toujours Jean-Marc et Barnabas, d'accord. Donc quelque part, le grec laisse supposer que Paul a pris la première place. Mais sans doute que Barnabas l'a poussé, puisqu'il l'avait formé pour, et qu'il entre enfin, avec ce voyage à Chypre, il entre enfin dans l'apostolat auquel il a été appelé. Donc désormais, ce sera toujours Paul qui est cité en premier, notamment à partir de cette histoire ici, et il s'embarque vers Paphos. Donc ça, c'est important, parce qu'il faut donc bien comprendre que Barnabas va toujours maintenant rester au second plan. Puis ça peut être important pour la suite du texte aussi, des choses que on devrait essayer de découvrir ensemble. Donc, je reviens au verset 13. Alors, 13 à 15, on va dire, c'est un petit peu le cadre dans lequel ce voyage se poursuit. C'est comme si on nous délimitait un peu le cadre de l'histoire. En tout cas, dans les versets 13 à 14a, c'est très précis que on a des détails plutôt géographiques, etc., d'où ils sont partis, où ils vont, etc. Et donc, j'ai affiché la carte ce soir, parce que ça me semble quand même important de comprendre ce qui s'est passé. Donc, après une première étape à Chypre, dont on ne sait d'ailleurs pas combien de temps elle a duré, on suppose plusieurs semaines, voire peut-être quelques mois, on ne sait pas, déjà traverser toute l'île, évangéliser au fur et à mesure, travailler avec l'officier romain à Paphos. Et voilà que maintenant l'histoire se termine. On nous dit, ils s'embarquèrent. Donc le terme en grec est même très imagé, puisqu'il s'agit de larguer les amarres, en fait. Voilà, donc c'est clair. Ils s'embarquent pour Perge, qui se trouve ici. Alors, deux choses. Vous voyez que juste à côté, il y a un réel port maritime qui s'appelle Attalia, qui, lui, pouvait recevoir des bateaux sur la côte même. Pour aller à Perge, il fallait prendre des petits bateaux, parce qu'il fallait remonter, alors c'est peut-être sur vos cartes, vous y verrez mieux, il faut remonter le fleuve, c'est ce qui est là, sur 11 kilomètres. Oui, donc c'est pas évident. Et on suppose que si c'était un gros navire normal, entre guillemets, ils allaient de toute façon à Attalia. Et vous remarquerez que plus tard, alors ça je ne voulais pas demander de le chercher évidemment, mais bien plus tard, c'est par le port d'Attalia qu'ils vont repartir. Donc on le voit d'ailleurs avec le deuxième dessin du retour du voyage. Attalia, qui était quand même le port le plus accessible, le plus fréquenté, le plus sécurisé. Tandis que remonter les 11 km sur le fleuve pour atteindre Pergé, ça ne devait pas être évident nécessairement. Non, on ne sait pas trop. On suppose que c'était Attalia, mais ça peut être Pergé aussi. Et à combien estimez-vous la... En kilomètres, on ne va pas faire ça en milles nautiques, hein, mais cette traversée entre Paphos et... Alors que ce soit Pergé ou Attalia, ça ne change pas grand-chose.
200.
Oui, environ 200. Oui, 200, hein, environ 200 kilomètres, ouais. Peut-être plus, ça dépend du temps, des vents, hein, parce que si tu dois le voyer pour chercher le vent, oui, ça peut être plus long que 200 bornes. Hein. C'est quand même déjà un très gros voyage par rapport aux premières traversées maritimes ici.
Oui, 200.
Oui, quelque chose comme ça. L'échelle,
là, oui. Même moi, je dirais un peu plus. Voilà. Hein.
Donc, l'expérience. De nouveau, des voyages quand même pas aussi assurés qu'aujourd'hui. Il suffit d'une tempête pour avoir des problèmes. Hein. Donc, ils reprennent la mer et ils vont poursuivre leur mission dans cette partie de l'Asie mineure, donc l'Asie mineure de la Turquie actuelle. Et ils vont, alors ça aussi ce sont des détails qu'on ne peut pas nécessairement trouver dans le livre des Actes, mais ils vont tout simplement suivre la voie romaine, la voie militaire romaine qui monte à Antioche de Pisidie. Voilà. Alors il y avait deux routes, il y en a une qui contournait les lacs, si vous avez vos cartes sous les yeux, il y a un lac ici. Alors, il y avait une route assez facile qui contournait les lacs pour aller à Antioche, mais la voie la plus rapide était celle de Pergé à Antioche. Alors, qu'est-ce
rapide, tu crois, parce que c'est les montagnes, quand même.
Oui, oui, mais enfin, rapide, plus rapide que de faire le grand tour autour des lacs. Hein. Oui. Alors Pergé, dont il est question en tout début, c'est la capitale de la Pamphylie, d'accord, de cette province-là, de cette partie du territoire. La capitale...
Il est 200 kilomètres, c'est ça.
Ouais.
Et donc le fleuve qu'ils auraient dû remonter s'ils étaient partis avec un petit bateau, c'est le fleuve Sestrus. Mais beaucoup de commentateurs pensent qu'en fait c'était Attalia pour aller à Pergé. Après d'Attalia à Pergé, il y a 20 km, quoi. 20 km à pied ou à cheval, bon, peu importe. Pas très loin, par la route justement militaire qui partait du port d'Attalia et qui monte vers Antioche. Et alors, c'est là qu'on arrive à notre deuxième détail auquel se sont intéressées plusieurs personnes. C'est le départ de Jean ou de Jean-Marc ou de Marc, ça dépend. Parfois Luc dit Marc, parfois Jean, parfois Jean-Marc, ça dépend. En fait, Jean est certainement son nom hébreu et Marc étant un surnom en l'occurrence ici. Donc, que se passe-t-il quand ils arrivent à Pergé ?
Ils se disputent. Et ils sont peut-être pas d'accord.
Alors, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. D'accord ? On peut supposer qu'il y a un différend. Parce que comment expliquer le départ subit de Jean-Marc qui va même jusqu'à retourner à Jérusalem ? Or, si vous vous souvenez bien, il venait d'Antioche. Donc, il travaillait à Antioche pendant tout un temps avec l'église d'Antioche. Et là, il décide, apparemment sur un coup de tête, de repartir chez lui, puisqu'il est originaire de Jérusalem. Vous rappelez l'histoire avec Pierre, la prison, la nuit, voilà, c'est chez la maman de Jean-Marc qu'il s'est pointé. Donc, subitement, il quitte le petit trio, n'est-ce pas ?
On ne pourrait pas imaginer qu'il a perdu un être cher là-bas et qu'il retourne. Pourquoi est-ce qu'on... Tu vois ?
Oui, on peut tout imaginer. On peut tout imaginer.
Mais sauf qu'après, Paul râle.
Voilà. Donc, un peu plus loin dans les chapitres, au chapitre 15, on va découvrir que Paul est furibard. Il est encore furibard. Et au moment où Barnabas lui propose...
36-37.
Barnabas lui propose de reprendre Jean-Marc avec eux pour faire une autre tournée. Il s'y oppose, Paul... Et ça finit en différend au point que Barnabas part de son côté avec Jean-Marc et que Paul partira avec Silas pour faire son travail. Donc le différend datait de cet incident dont on ne connaît pas grand-chose. Donc on peut évacuer le côté familial, le côté deuil, le côté, tu vois, qui fait qu'il devait retourner à tout prix à Jérusalem. Donc si on n'a pas la raison, on sait cependant une chose, non ? C'est qu'il a bel et bien été envoyé par l'église d'Antioche avec Barnabas et Paul. Avec quel rôle ? On l'a vu, ça. Avec le rôle d'assistant. Donc il était là pour les assister dans le travail. Il n'était pas là pour juste accompagner son cousin ou faire du tourisme ou profiter du voyage. Non, il était missionné avec les autres. Il a été envoyé avec les autres vers Chypre et au-delà. Et donc, c'est comme s'il y avait une rupture de contrat unilatérale. Il décide, lui, de rentrer. Donc ça, c'est quand même important. On a déjà un tout petit indice qui nous permet de comprendre qu'il s'en va pas en bon terme, finalement.
Mais il y a déjà longtemps, que pour arriver à Perche, faut quand même, ils auraient pris le chemin des montagnes, que c'est assez vertigineux, et que Jean-Marc aurait pris peur.
Donc, en tout cas...
Voilà, j'ai lu ça je ne sais plus où, dans un commentaire, évidemment, pas n'importe où, mais est-ce que ça vaut... Est-ce que c'est opinette ou...
En tout cas... Ça a posé problème au trio et ça a posé problème à Paul en particulier.
Le fait que Paul soit en premier maintenant, peut-être que Jean-Marc n'était pas...
En l'absence d'informations hyper claires de la part de Luc, il y a quand même deux, trois hypothèses. Je vais dire deux globalement, mais j'en rajouterai une après. Il se peut qu'il ait pris ombrage du leadership soudain de Paul, auquel il ne s'attendait peut-être pas. Donc, c'est-à-dire... Jusque-là, on avait dit Barnabas et Paul, Barnabas et Paul, mais tout d'un coup, c'est comme si Paul se foutait de Barnabas, il prenait le dessus, poum, hein, tu n'es plus mon mentor, maintenant je suis l'apôtre et l'apôtre des païens. Non, je rigole, mais c'est peut-être le ressenti de Jean-Marc qui trouve ça un peu olé-olé. Et d'ailleurs, beaucoup de commentateurs appuient là-dessus, pensant que c'est quand même ça l'hypothèse, puisque son cousin, Barnabas, est relayé dans une sorte de second plan. Ceci dit, quand on voit comment collaborent Paul et Barnabas, Barnabas et Paul, on se rend bien compte qu'ils font la même chose et qu'ils sont égaux, finalement, même si les rôles peuvent être légèrement différents. Ça, c'est une hypothèse. Elle peut être satisfaisante, mais on peut y ajouter une deuxième qui rejoint un peu ce que tu disais, Bernard, tout à l'heure. C'est que Jean-Marc n'est pas à l'aise avec les conditions du voyage. Alors, rappelez-vous, il y a déjà eu deux traversées, plus la traversée de Chypre. Donc déjà là, ils n'ont pas dû spécialement s'amuser tous les jours. Mais il se peut que Jean-Marc n'était pas très au clair sur les difficultés, ne serait-ce que les difficultés, sans même parler des dangers de ce type de voyage. Peut-être pas à l'aise, il n'avait peut-être pas le pied marin non plus, on ne sait pas. Mais en tout cas, une autre partie des commentaires pense que, quelque part, les difficultés subies depuis le départ étaient trop importantes pour lui que pour continuer. Et donc, il se serait découragé et aurait laissé tomber son cousin et puis l'apôtre Paul. De là à dire, et là je vais un peu dans le sens que Bernard appuyait, quelques commentateurs pensent que, géographiquement, le voyage à partir de Pergé devient compliqué. Et tout le monde le sait. Donc, dès que tu mets le pied à Attalia dans le port, tu es déjà non loin des zones montagneuses. Et dès que tu quittes vers Pergé, tu commences tout doucement à monter. Alors, Pergé, c'est pas très haut. C'est plus ou moins 30 mètres d'altitude. C'est pour vous dire qu'on est à 11 km de la côte. C'est pas le plus difficile à faire. Mais à partir de Pergé, là, si vous regardez sur vos cartes...
Pergé, 30 mètres.
Oui, environ 30 mètres d'altitude.
Ah oui, c'est rien du tout, quoi.
C'est rien du tout.
Mais par contre, le reste, ça monte. C'est une petite colline.
Oui, enfin,
mais c'est même pas
ça monte pas beaucoup. Par contre, dès que tu quittes Pergé, la route militaire qu'ils auraient prise la plus directe pour aller à Antioche, elle file directement dans les montagnes. À quelques kilomètres de la sortie de Pergé, on commence à monter. Et pourquoi ? Parce qu'Antioche se trouve quand même à 1200 mètres. Mm-hmm. Voilà. Mais pour aller à ces 1200 mètres, qui est un plateau, il faut d'abord grimper et redescendre. Mm-hmm. Et grimper des montagnes qui, là, frisent quand même les 2000 mètres. Mm-hmm. Vous voyez, un petit peu, c'est pas si simple que ça. Et puis, si on continue la géographie, après, on arrêtera avec la carte. Mais vous voyez que derrière Antioche, il y a une très grande chaîne de montagnes qui fait un peu nord-ouest-nord-est, si vous voulez, hein, qui entoure légèrement Antioche. Eh bien, cette chaîne de montagnes culmine à 2800 mètres. Mmh. Donc, c'est pour vous dire que Antioche est dans une grande vallée, style plateau, coincée entre la montagne qu'il traverse pour y aller et les montagnes qui sont derrière. Mmh. Dans les conditions climatiques plutôt sereines à Antioche, mais enfin, il fallait quand même se taper la traversée, là. Mmh. Alors, on peut estimer aussi, et c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a peut-être un mix des deux dans cette affaire, qui serait la troisième hypothèse, c'est qu'il n'est pas content du leadership de Paul et qu'en plus de ça, il y a ces fameuses difficultés. On ne sait pas dans quelles conditions physiques était spécialement Jean-Marc, mais peut-être qu'il ne s'estimait pas capable d'aller plus loin. Voilà. Enfin, en gros, ça nous permet un peu de comprendre. En tout cas, la géographie nous permet de comprendre que ce n'était pas si simple. Ce n'est pas un voyage missionnaire... voilà. On arrive en avion, on est parachuté, hop, tout va bien. L'aéroport d'Antioche.
Où est-ce qu'on peut faire le reproche à quelqu'un de ne pas être capable de faire...
Justement, moi, je pense qu'il y a quand même un différent.
Ouais, le différent doit être plus
Il y a quelque chose qui... Ça, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre Jean-Marc et Paul.
C'est suffisant pour être fâché par après, tu vois.
Mm-hmm. Oui, Paul, en tout cas, l'est, lui, ça, c'est clair. Hein. Il a gardé une petite dent contre ce monsieur.
Justement, oui, ils pensent quand même que c'est unilatéral, quoi.
Oui, oui, tout à fait. En tout cas, c'est ça. Le texte grec est suffisamment clair que pour montrer que c'est Jean-Marc qui a pris la décision tout seul, apparemment, un peu sur un coup de tête, c'est ça que je disais tout à l'heure. Hein. Bim, pour des raisons qu'on ne saura pas totalement, mais qui sont quand même suffisamment importantes à ses yeux, que pour quitter, pas que le groupe, quitter la vocation. Quitter la mission qu'il a reçue. Donc, ne pas remplir la mission qu'Antioche lui a confiée. Ce qui peut-être nous permettre de comprendre pourquoi il ne rentre pas Antioche. Parce que je me suis quand même interrogé en préparant, en disant, mais bon sang, pourquoi il ne retourne pas à Séleucie et puis à Antioche qui est juste à côté, ou directement à Antioche.
Pourquoi tu reviens?
Parce qu'il préfère retourner chez lui. Là, au moins, il n'y aura pas de reproches. Voilà. On t'a missionné, mais tu reviens, c'est quand même dommage, quoi.
Non, merci.
Ça montre une chose. C'est toi, Elisabeth, tu viens de dire, nous sommes tous des humains, hein, et on aborde les choses de façon tellement différente. Paul, on sait que c'est un fougueux, c'est un... peut-être un petit peu tempérament colérique, avec les bons côtés du colérique. Et Jean-Marc, c'est peut-être un mélancolique, plus doux, plus... je sais pas. Et donc, on est tous différents et on peut vivre les choses d'une manière différente.
Toi, tu veux du sucre ?
Quand je dois aller chez Guy, je dois frotter la montagne. Hein.
C'est ça.
C'est le cas de le dire, il faut monter pour aller chez Guy.
Descendre, puis remonter.
Oui. Très, très bien.
Peut-être qu'il perdait du temps à attendre chaque fois Jean-Marc arrive. Il en avait marre d'attendre.
Alors, puisqu'on faisait de la géographie, un peu d'histoire, Antioche, vous avez trouvé quelque chose sur Antioche de Pisidie ou... Même si je n'ai pas spécialement demandé.
On n'a pas étudié, malheureusement.
La caractéristique. Alors, d'abord, c'est la capitale de la Pisidie. Ça, c'est important. Oui, c'est la petite province. Donc, Pergé en Pamphylie, Antioche au nord, en Pisidie, et même au nord de la Pisidie. Donc, il faut traverser une bonne partie de la Pisidie pour y parvenir. Et Antioche coincé par les deux chaînes de montagnes. Voilà. Alors, c'est à l'époque...
Ça veut dire toutes les tribus. C'est pas ça, c'est pas Antioche.
Je n'ai pas traduit, mais...
Ça veut dire toutes les tribus, parce qu'il y a de nombreuses nationalités. Je n'ai pas mis de quelle ville il s'agissait, mais c'est sans doute Antioche.
À l'époque, il y a un sacré brassage, quand même.
Ouais. Ouais.
Et la raison encore plus à Antioche, parce qu'Antioche est une colonie romaine. Donc, c'est-à-dire, vous savez, le système des colonies romaines, vous savez un peu comment ça marchait ou pas? Je crois qu'on en a parlé une fois, mais je ne me souviens plus si je l'ai détaillé. Mais en fait, quand les guerres de conquête ont été terminées et qu'il y avait des milliers d'hommes des légions romaines un peu partout, hein, géographiquement éparpillés dans le bassin méditerranéen, Rome laissait non pas des soldats, mais convertissait ses soldats en colons. Donc ceux qui avaient eu les honneurs, qui avaient bien guerroyé, avaient droit de devenir colons, en spoliant les villes qui existaient à l'époque déjà, mais aussi en les améliorant. Parce qu'à Antioche, il y avait quand même des constructions, et encore aujourd'hui, si vous avez l'occasion de faire un voyage sur les traces de Paul en Turquie, Antioche, c'est une ville avec une architecture incroyable, la vieille ville archéologique évidemment, avec des fontaines, avec un théâtre, etc. Enfin, une très grande ville quand même. L'eau arrivant depuis les fameuses montagnes qui étaient au nord-ouest, des chaînes de montagnes où il neigeait abondamment, donc il n'y avait pas un problème d'eau, mais les Romains avaient construit un aqueduc qui amenait l'eau sur des dizaines de kilomètres à Antioche. Tout ça est encore visitable aujourd'hui. Donc ce n'est pas une petite ville et ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est une ville qui est quasi romaine, on va dire, mais dans laquelle il y a énormément de juifs déjà, et puis de païens, bien entendu, les Romains en particulier. Et voilà, donc je pense qu'il y a quand même une stratégie derrière le voyage missionnaire de Paul. Ce n'est pas juste « je vais au juger » comme ça, et puis non, arriver à Attalia ou à Pergé, c'est déjà une stratégie. C'est choisir les voies romaines les plus rapides à partir de ces deux villes-là. Après, monter à Antioche, c'est monter au cœur, à l'époque. Rappelez-vous qu'on fait la plupart du temps tout ça à pied ou à Dodane. On monte ces immenses montagnes pour aller rejoindre cette ville qui est au cœur, finalement, de l'Asie mineure et essayer de toucher un maximum de païens. Ça va jusque-là. Voilà, comme ça, on a une petite idée du pourquoi. Ben après, il fera la suite, comme vous le voyez sur la carte, c'est Iconium. Donc, d'Antioche, il prend une route assez facile, finalement. Ici, il n'y a plus les montagnes. Hein. Iconium, Lystre, Derbe. Mais par contre, impossible de traverser, parce qu'il y a plein de montagnes. Tout ça, ce n'est que des montagnes. Il ne peut même pas aller à Tarse, qui est pourtant pas très loin. Hein. Paul ne peut même pas aller chez lui, parce que c'est infranchissable, quasi. Donc, ils sont bien obligés de faire, par les voies romaines, la route à l'envers pour rentrer après à Antioche. Antioche de Syrie, pour être précis, quand même.
Voilà, ça
nous donne des idées.
Si on ferait ce voyage, comme tu dis, sur les traces de Paul, est-ce qu'on trouverait encore des vestiges, entre guillemets, du passage de Paul et des autres? Est-ce qu'on trouverait des informations? La Bible nous donne beaucoup d'infos, mais si on irait sur place, en Israël, dans la Pamphylie, etc., Pisidie.
À Malte, en tout cas, oui.
À Malte?
Ah oui, Malte, ils ont gardé la caverne de Paul, ils l'allument, c'est les villages qui payent pour garder allumé toute l'année. Ils sont super...
Ce qui est clair, si tu veux, c'est que
certitude,
un défaut.
Avec certitude.
Peut-être que t'avouerais que je...
Oui. C'est comme à Damas, hein, dire ça c'est la maison où Paul a été. J'ai un peu de doute. Mais par contre, si on parle des lieux, si on parle de ces vieilles villes, oui, là les traces sont nombreuses, y compris en Israël. Hein, franchement, il n'y a pas une année où il n'y a pas une nouvelle découverte en Israël qui prouve l'appartenance du territoire, justement, malheureusement, aux Juifs. C'est comme ça. Mais par contre, on peut vraiment... Alors, en Turquie, il y a plein de tours, hein, opérateurs qui justement, surfent sur la vague de Paul, alors qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est assez rigolo. Mais il y a plein de choses à voir. Et c'est clair qu'il est passé à peu près partout en Asie mineure. Donc, ça, ce n'est qu'un petit bout de ce qu'on voit maintenant.
Ce n'est que le début.
Les traces, il doit y en avoir peu, puisque nous, on n'est pas des constructeurs de cathédrales et de machins comme ça. Ben tu vois, à l'époque,
des vestiges de synagogues, il y en a plein partout.
Voilà, oui, c'est ça.
C'est clair, mais alors maintenant, des traces qui seraient liées à la personne de Paul, à part ses lettres, Je ne vois pas ce qu'on peut vraiment trouver archéologiquement. Hein, un bout de tente qu'il aurait construit,
hein,
puisqu'il était faiseur de tente. Pourquoi pas? Il faudra encore prouver que c'est sa main qui l'a vraiment faite. Ok. Donc, je résume ma pensée maintenant au sujet du verset 14. Hein. Y a une chose qui m'a frappé, c'est que contrairement à leurs habitudes, ils ne restent pas à Pergé. Si vous lisez bien le texte, ils gagnent Pergé en Pamphylie, Jean s'en va, et eux, ils quittent Pergé. Or, qu'est-ce qu'ils font d'habitude ?
Ils vont à la synagogue.
Ah oui, exactement.
Ils s'installent,
ils enseignent plusieurs jours, voire des semaines, convertissent des gens, puis ils partent ailleurs. Mais là, apparemment, pour une raison qu'on ignore, ils ne restent pas à Pergé et ils filent sur Antioche. C'est vraiment comme si c'était leur objectif principal, c'est percer à Antioche et on verra bien ce qui se passe après. Maintenant, pour le fun, pour que vous ne soyez pas sur votre faim, Pergé aura droit. Hein, à l'annonce de la bonne nouvelle au retour. C'est ce qu'on découvre plus loin dans le chapitre 14, les versets 24 à 25, où on voit que sur voyage de retour, là, ils vont s'arrêter à Pergé, ils vont prendre le temps avant de reprendre le bateau pour rentrer sur Antioche de Syrie. Donc, il y a sans doute une stratégie. C'est filer rapidement sur Antioche, faire un maximum de conversions, continuer la voie romaine jusqu'à Derbe, et puis revenir et là prendre du temps à Pergé, puisque là on aura encore le temps avant de prendre un bateau. Voilà. On sent que ça c'est quand même assez réfléchi, assez bien pensé. Toujours pour résumer, donc il file sur Antioche par une voie qui est quand même relativement pénible à l'époque, avec un sérieux dénivelé, avec une chaîne de montagnes à franchir, mais aussi périlleux, parce que vous le savez, on l'a déjà vu dans les évangiles, etc., voyager en montagne, c'est périlleux pour plusieurs raisons. Climatique, suffit d'un orage, suffit de la pluie, mais c'est surtout le brigandage, car les embûches sont là. Donc, dès que tu es un peu trop seul, tu es attaqué. Si tu es en caravane, c'est déjà plus délicat. S'il y a des Romains avec, alors là, c'est quasiment la voie royale, quoi. Alors, c'est peut-être pas pour rien qu'il prend la voie militaire romaine, parce qu'elle est certainement sécurisée par postes successifs le long de la voie qui permettent d'arriver plus facilement et avec moins de danger. Voilà donc, je pense qu'on a bien résumé ce verset 14. Alors, je continue le verset 14, puisqu'il n'est pas fini... Donc je relis. Hein. Quant à eux, quittant Pergé, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent dans la synagogue et s'assirent. Donc, ils sont arrivés à Antioche, à mon avis, dans la semaine, puisque le texte grec nous laisse entendre qu'il s'est passé quelques jours avant que tombe dans le calendrier, le jour du Shabbat. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'ils font ?
Ben, ils vont à la synagogue.
Oui.
Ils s'assoient.
Alors, ils vont naturellement à la synagogue.
Oui, incognito. Oui.
Parce qu'ils sont juifs.
Oui, déjà. Oui,
ils sont pratiquants.
Mais c'est évident.
Ils ont beau être judéo-chrétiens, si vous voulez, pour eux, c'est important d'aller à la synagogue. Et puis, dans la stratégie paulinienne, on le verra tout le temps, partout où il passe. La première chose qu'il fait, c'est parler aux Juifs, puis aux païens. Et en l'occurrence ici, quel type de public ils ont ? Enfin, c'est peut-être pas noté là, dans le verset 14. Hein. Mais on peut le déduire du début du discours de Paul au verset.
Des Juifs.
Oui, mais...
Ah, et vous qui craignez Dieu.
Voilà. Donc, il y a des craignants Dieu, il y a des païens sympathisants qui sont dans la synagogue, ou des prosélytes, on n'en sait rien, c'est les deux ou un des deux. Mais en tout cas, il y a aussi donc, un petit volant de païens dans cette communauté juive d'Antioche. Mais je reviens en arrière maintenant. Donc ils vont, de manière tout à fait normale, naturelle, au service religieux du Shabbat, parce qu'ils sont juifs, qu'ils en ont le besoin. Rien n'est dit. Est-ce que Paul s'imagine pouvoir prendre la parole ou pas? Mais à mon avis, ce n'est pas la première chose qu'ils avaient en tête. Ils vont d'abord pour le culte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est dans la suite du texte. Il se trouve qu'après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire « Frères, si vous avez quelques mots d'exhortation à adresser au peuple, prenez la parole. » D'accord ? Donc, on s'aperçoit à la lecture du texte que Paul n'a pas prémédité son discours. Ils y sont invités, tous les deux, Paul et Barnabas. Et donc, il n'a pas, je ne sais pas, réfléchi, construit un discours qu'il a été invité à prononcer 3 jours avant. Ça lui tombe dessus et il va réagir au quart de tour. Et vraisemblablement, c'est ça qu'il faut comprendre en tout cas, quand les chefs de la synagogue, le conseil de la synagogue, leur fait dire « Adressez-nous quelques mots d'exhortation », c'est bien ce que le grec dit, ou d'encouragement. Généralement, c'est des termes qui se reportent à la prédication, l'homélie, qu'il fallait prononcer sur base des lectures qui ont été faites ce jour-là. En général, un chapitre entier de la loi, un chapitre entier des prophètes.
Et est-ce que ce n'était pas une habitude aussi dans les synagogues?
De prendre la parole, alors, c'est la parole
des enfin, on pouvait, oui, mais pas nécessairement pour l'exhortation.
Oui, c'est ça que l'exhortation, c'est quand même plus important.
Paul devait savoir, imaginer bien qu'il serait appelé à parler.
Qu'il pourrait être appelé à parler.
C'est normal. Quand tu visites, tu vas dans une synagogue.
Surtout si tu es nouveau.
Mais tu es un juif comme les autres, donc on t'honore en te demandant si tu veux lire la parole, ou bien peut-être là une exhortation.
Ils ont un fameux courage, ces juifs-là.
Oui.
Parce que dans nos églises, on aurait connu venir, on ne donnerait pas la parole.
La première ville dans laquelle nous avons habité, il y a plusieurs synagogues, dont on en a visité plusieurs. Dans une synagogue, je suis allé seul, j'étais un peu en arrière, on est venu me demander si j'étais juif et si je voulais bien lire la Torah, si je voulais bien monter au pupitre et lire, sans me connaître. Je disais que je sois juif au bout du monde, mais j'ai droit à lire la Torah.
Mais vous l'avez fait?
Non, il n'est pas juif.
Non, parce que je ne connaissais pas l'hébreu, surtout l'hébreu biblique. Parce qu'il ne faut pas se tromper.
Ah oui.
Il ne faut pas se tromper.
Dans la Torah que tu lis, il n'y a pas nécessairement les voyelles.
Oui, c'est ça.
Tu n'as pas intérêt à te tromper déjà.
Ça, c'est très difficile quand il n'y a pas de voyelles.
Mais on vous a quand même demandé.
Oui, on m'a demandé sans reconnaître.
Oui, c'est significatif.
Mais lire, on peut encore comprendre.
Oui,
mais donner une exhortation,
c'est
un enseignement.
C'est plus grave.
Waouh.
C'est plus important.
Oui. Pour des gens qui ne sont pas connus,
je trouve que c'est bien. Si vous avez quelques mots à adresser à la communauté, vous avez la parole.
Mais il n'est pas marqué exhortation.
Oui, mais le terme grec est très clair. Il s'agit vraiment d'une parole religieuse, parole biblique, et pas juste « je m'appelle Paul, je viens vous voir, vous êtes bien sympathique ».
C'est des paroles d'encouragement.
Elle dit jamais les salutations de tel endroit.
Oui, bien à lui.
Oui.
C'est vraiment une exhortation.
Donc là, c'est une aubaine pour Paul et Barnabas. Quoi. Ils vont en profiter au maximum, avec les retombées qu'on verra après, plus tard. Mais je trouve qu'il fallait quand même, de la part de Paul et Barnabas, à la fois beaucoup de courage, parce qu'ils savent que ce qu'ils vont dire n'est pas nécessairement ce qui est acceptable. Parler de Jésus en tant que Messie d'Israël, c'est quand même pas aussi évident que ça, même si on est très loin de Jérusalem. Ça peut se passer mieux, mais ça n'empêche que si ce sont des Juifs très carrés, ça va pas être simple d'en parler comme ça, quoi. Alors, en plus, ici, ce qui moi, m'a stupéfié, c'est que manifestement, les deux textes qui ont été lus dans la loi et les prophètes devaient quelque part avoir quelque chose à voir avec ce qu'il dit. Il rebondit sur la lecture, donc comme s'il y avait une espèce de calendrier divin et humain qui fusionne juste au bon moment pour que ça soit très naturel. Il fait un discours finalement, enfin on le verra en détail plus tard, hein, mais fait un discours absolument incroyable qui semble en tout cas être bien reçu. Si vous avez lu tout jusqu'à 41 par exemple, ben, il n'y a pas de vague, hein, il n'y a pas vraiment d'opposition flagrante suite à ce qu'il raconte là. Alors évidemment, il se peut qu'à Antioche, certains juifs aient voyagé à l'époque à Jérusalem pour la fête de Pâques, ils étaient peut-être vaguement au courant de l'histoire de Jésus. Pas nécessairement, il se peut qu'il n'y en ait aucun qui y soit allé. Mais donc, ça va matcher quelque part. Ça va, sans grosse difficulté, la prédication de la bonne nouvelle est finalement prononcée sans qu'il y ait de gros problèmes.
Et par rapport à la résurrection, on est à combien de temps? Par rapport à la résurrection, on est quoi, 3 ans, 5
plus
ans
que ça.
Plus que ça. Oui. Ouais. Ah oui.
J'avais fait un calcul l'autre jour, mais j'ai déjà oublié. Il y a quand même plusieurs années qui se sont passées, rien que pour Paul, hein, même après sa conversion. Quoi. Tout n'est pas aussi rapide qu'on l'imagine. C'est nous, mais en lisant les Actes des Apôtres, qui ne voyons pas le temps passer, ouais, qui pensons que tout ça est condensé. Ouais. Mais il se passe quand même pas mal de temps. Mmh. Okay. Et donc, c'est aussi le fait que peut-être certains juifs ne sont pas du tout au courant de cette histoire de Jésus de Nazareth. Hein. C'est pas impossible, en tout cas. Mais donc, moi, ce qui m'a quand même beaucoup intéressé...
Sur ma ligne du temps, les Actes auraient été écrits seulement en 85.
Oui, ce qui...
Ah bah oui, parce que Luc... Écrit, bah oui.
Oui, c'est normal.
Ah bah oui, comme Luc, mais Luc, c'est en 80, mais oui.
Il relate des faits qui datent des années 40, on va dire, oui.
Mais alors, mais les faits...
Entre
oui,
40 et 50. Mm-hmm. Pour les faits historiques, en tout cas.
Oui, parce que la lettre de Saint-Odyssée, c'est en 5 ans, donc il avait déjà commencé ses voyages. Quoi.
Oui. Et sur base, en tout cas, du texte grec, certains, comme moi je ne vais pas jusque-là, hein, certains commentateurs, en fonction de ce que Paul va dire dans son discours, ont repéré deux textes qui peuvent être le texte de la loi et le texte, donc le texte du Pentateuque, si vous voulez, le texte des prophètes. En disant il s'agissait de Deutéronome 1 et d'Ésaïe 1.
Voilà les lectures.
Qui d'ailleurs, aujourd'hui encore, sont lus ensemble par les communautés juives d'aujourd'hui. Donc c'est ça qui est. Il y a toujours un découpage de lecture qui fait que certaines lectures tombent toujours les mêmes au même sabbat.
Ah, mais donc on peut savoir, après recherche, que c'était ces deux passages-là.
C'est ce que estiment certains commentateurs. D'accord. Moi, je trouve que c'est...
C'est un peu culotté.
C'est culotté parce que finalement, dans le grec, est quand même un grec... Alors, dans les citations qui viennent à l'esprit de Paul au moment où il prononce son discours, le grec nous montre le grec de la Septante, si tu veux, qui n'est déjà pas le grec, qui n'est déjà pas l'hébreu de la Torah. Hein. Donc nécessairement, il y a déjà une petite variante. Mais admettons que les quelques mots grecs que Paul prononce puissent nous faire tomber sur ces deux passages-là. Moi, je les ai lus par acquis de conscience. Je dis qu'il y a quand même à boire et à manger. Quoi. De là à pouvoir vraiment affirmer ce sont ces deux textes-là qui ont été lus. Mais en tout cas, ce que j'en retire, moi... C'est que les deux textes qui ont été lus lui ont permis de prononcer ce discours. Même si on ne sait pas les identifier, c'était donc des textes qui parlaient de l'histoire d'Israël, le patriarche, etc., ou un texte des prophètes qui parlait peut-être de la venue d'un Messie.
Voilà. C'est vrai que les apôtres ont toujours montré qu'ils rebondissaient sur ce qu'ils entendaient pour annoncer
le message. Exactement. Donc profiter de l'occasion pleinement pour annoncer ce qui est annoncé à partir de ce qui avait été lu ou entendu par le public qui était là. Ce qui, je trouve, est excessivement intelligent. Moi, c'est pas simplement j'arrive avec mon prédiscours préformaté et je le mets vite à la sauce du moment. Non, non. Ils rebondissent. Avec la connaissance que Paul avait des Écritures, lui permet de rebondir, mais de manière incroyable. Quoi. Et donc, ça paraît à la communauté tout à fait naturel, tout à fait normal. Il n'y a rien de choquant à ce que Paul même parle du Messie et identifie un Messie qui serait ce fameux Jésus. Jusque-là, ben, on verra d'ailleurs en étudiant le texte plus tard que c'est quand même quelque chose d'intéressant.
Et c'est marrant, il ne propose pas de dire que, par exemple, ils ont lu les psaumes, pas le psaume 2, puisqu'ils le citent. Tu vois, quoi, spécifiquement, tu pourrais te dire, bah, alors c'est qu'ils viennent juste d'en parler. Mm-hmm. Même pas, c'est pas ça me paraîtrait plus facile, moi.
Oui, oui, oui. Ah non, tu es bien obligé. Alors, nécessairement, les deux textes, c'est dans le Pentateuque, dans les cinq premiers livres de la Bible, et dans les prophètes. Voilà. Ouais. En tout cas, pour ce sabbat-là.
Oui.
Et ceci dit, ça reste vrai pour la plupart des services religieux en synagogue. On va toujours puiser dans ces deux choses-là. C'est plutôt rare qu'on lise un passage des livres historiques pour un culte, tu vois. Bon. Après, c'est autre chose que l'étude. Oui.
C'est impressionnant de voir que c'est pas la première fois, avant et après, où ils refont l'histoire un petit peu du peuple. Et là, on voit que chez les Juifs, ça doit avoir une importance capitale de se souvenir en permanence d'où on vient, de connaître tout.
Oui.
Comme les pierres qu'ils avaient demandé qu'on enlève du lit de la rivière, pour se souvenir, et tu le raconteras. Et c'est toujours comme ça. Hein. Il démarre à choisir nos pères. Donc ça remonte loin. Hein.
Abraham,
patriarche. Il y a toujours un rappel en fait du peuple d'Israël.
C'est fou ce qu'on peut aller chercher sur quelques versets.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez vues que moi... Bon, je ne suis pas revenu sur les questionnaires, mais on va s'y atteler un tout petit peu là, par rapport au découpage du discours, pour avoir quand même une vue d'ensemble avant d'attaquer le discours la fois prochaine. Là, on n'aura fait que 15 versets aujourd'hui. Hein. On va pas entrer dans le vif du sujet.
15 versets, mais non, on a fait 3.
Nous, on est quand même. On est quand même arrivé au verset 14-15, là.
Oui,
mais on commence à faire.
Mais je veux dire.
Oui, tu veux.
Le reste du texte, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, sinon on ne finit pas la soirée.
Oui, c'est ça.
Alors, il y a un autre petit détail intéressant. Enfin. Pour ceux qui veulent pinailler un peu, ça n'existe pas qu'il y ait des chefs de synagogue. Il y a un chef de la synagogue et un seul. Donc on suppose, et c'est logique de le supposer, que quand on parle des chefs, on fait allusion au conseil de la synagogue, avec tous ceux qui participent à la vie de la communauté. En général, 4-5 personnes, 10 grand max, dont le chantre, hein, puisqu'il y en a un qui est spécialiste du chant, il y en a d'autres qui sont spécialistes de tout ce qui est entretien de la Torah et compagnie, il ne faut surtout pas qu'elle se dégrade. Enfin bon, il y a plein de services possibles. Et que c'est eux qui, voyant ces deux nouveaux dans la synagogue, assis à leur place, envoient quelqu'un leur dire, après la lecture de la loi et des prophètes, si vous voulez intervenir, on serait heureux de vous entendre. Ce qui montre, comme tu le disais, moi ça me sidère aussi. On ne verrait pas ça aujourd'hui en église, nulle part, ni chez les protestants, ni chez les catholiques. T'arrives, t'es nouveau, tu t'assis au fond de la salle, on vient te chercher. Ça serait l'extraordinaire quand même. Donc, je crois qu'on est peut-être trop prudent aussi par moments, exagérément prudent, mais la fraternité juive fait que tout un chacun est à même d'avoir un rôle. Je ne sais pas si papa se souvient, mais quand on a fait un voyage en Pologne tous les deux, je pense que c'était à Auschwitz cette fois-là, ils ont dans un des lieux d'Auschwitz, il y avait un déversoir des cendres. Et là, 10 hommes qui ne se connaissaient pas ont formé un groupe, alors ça porte un nom spécifique en hébreu, on ne va pas y venir, il faut être 10 pour entamer une prière. Et donc ces 10, entourés de tous les autres, puisqu'on était, je ne sais pas combien, 40-50 dans ce groupe-là, on était autour d'eux et ils ont prononcé toute une série de prières liées à ce qui s'était passé pour leur père, en tout cas. Et ça montre qu'il ne faut pas avoir un titre quand tu es juif. Tout le monde a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Tout le monde est capable de mener la prière. Ouais, il ne faut pas un prêtre, un pasteur, truc. C'est assez... Moi, ça me sidère, quoi. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des rabbins, bien entendu. Il faut quand même quelques érudits pour enseigner. Mais globalement, la vie spirituelle est autonome.
Les rabbins n'ont pas du tout la même position qu'un prêtre ou un pasteur dans la religion chrétienne. C'est quelqu'un qui est capable
d'expliquer,
de parler à la communauté, d'expliquer la Torah.
Et quand même avec un petit côté pastoral, hein, parce qu'ils écoutent beaucoup aussi. Ils écoutent et puis ils conseillent. Voilà. Une sorte de counseling, relation d'aide, parfois même assez étonnante. Oui, parce qu'on te donne des conseils. Donc, allez, ok. Donc, ça, c'était un petit détail, mais intéressant, encore une fois, de voir que Luc s'exprime. Il raconte des choses qui se sont passées. Il essaye de trouver le vocabulaire pour le dire. Et puis, voilà, ça se passe comme ça et c'est très bien. Alors, puisqu'on ne va pas attaquer les paroles d'exhortation de Paul, alors de nouveau, vous voyez que la préséance de Paul, ils sont tous les deux invités, mais c'est Paul qui prend la parole. Alors, sans doute de nouveau, parce que Barnabas le souhaite. Je ne crois pas qu'il y ait une opposition entre les deux, loin de là. D'ailleurs, bien plus tard, après l'histoire du différend, Paul finira par travailler quand même avec ce fameux Jean-Marc. Voilà. Mais il faudra que le temps ait levé un peu le problème, quand même. J'étais en train de dire quoi ? Là, j'oublie, du coup.
Que comme on n'allait pas commencer...
Oui, pas entrer dans le détail du discours de Paul. Mais néanmoins...
On a parlé de la préséance.
Oui, donc néanmoins, on voit que c'est bien la réalité, c'est que c'est Paul qui mène la barque désormais, et que Barnabas se tient, pas en retrait, mais disponible, et puis participant, parce que Barnabas, il va aussi amener des gens à la conversion, il va aussi prier pour des gens, etc., etc. Ce qu'ils ont toujours fait, tous les deux d'ailleurs. Hein. Sauf que jusque-là, c'était clair que c'était Barnabas qui pilotait le bazar. Donc, on peut estimer que Barnabas a souhaité que l'apostolat de Paul soit réellement visible et que tout le monde le comprenne ainsi, y compris dans toutes les villes où ils vont passer. Parce que c'est quand même Paul qui sera reconnu comme l'apôtre, le fondateur, si vous voulez, de communautés judéo-chrétiennes. Et puis Barnabas, lui, ne porte pas cette responsabilité-là. Voilà, donc pour en finir, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour, sur base aussi des questions que j'avais posées, essayer de repérer un peu comment se conjugue ce discours, qui est long, puisqu'il démarre au verset 16b, qu'on n'a pas encore vu, et se termine globalement au verset 41. Et on peut discerner combien de parties ? C'est dommage. Non, trois parties. Et comment on peut discerner qu'il y a trois parties ? Est-ce que c'est juste comme ça, le commentateur décide, ça c'est...
Hein, ça c'est clair. Hein.
Oui, moi je pense que c'est clair.
D'abord,
tu as demandé qu'on donne...
Oui, un titre à ces parties, ou en tout cas un petit résumé.
Oui.
Donc j'avais annoncé les parties, je pense que j'avais annoncé plus ou moins les versets.
C'est 13 à 25.
Alors je dirais plutôt 16 à 25, parce qu'en fait 13 à 15, c'est plutôt le contexte du voyage, l'arrivée à Antioche. Mais si on s'en tient au discours lui-même, disons versets 16 à 25, puis 26 à 37, puis 38 à 41. Ouais.
Rappel historique.
Alors,
c'est ça que je pourrais passer.
Oui. Vous pourrez dire oui, oui.
Après,
je reconnais ta perspicacité scientifique. Oui, oui. Alors, ça, c'est une manière de le dire, effectivement. On parle du passé, de l'histoire d'Israël.
Oui, moi j'avais marqué pour la première partie, Dieu a élu le peuple d'Israël, mais ça, mm-hmm. dès le début, ça y est, il oui. dit bien les.
Oui, oui, bon, oui.
C'est le peuple de Dieu choisi. Dieu a élu le peuple d'Israël et lui a donné un sauveur. Parce que déjà, dans oui. cette première partie, mm-hmm. il parle d'un sauveur.
Exactement. Donc on verra après que ces versets 16 à 25 peuvent aussi se diviser en trois. Hein. Mais restons sur le grand discours, d'accord ?
Oui, il nomme Jésus, mais il s'arrête à Jean-Baptiste. Quoi.
Oui, qui pointe le Messie, tout doucement. Donc on y reviendra dans un moment. Mais comment elle s'est... Je repose ma question, c'est quand même important. On ne peut pas simplement dire « Ah, moi je pense que c'est comme ça ». Je crois qu'il faut avoir une certitude. Si on dit qu'il y a trois parties au discours, qu'est-ce qui nous indique le passage d'une partie à l'autre ?
Ah, il redit prêtre.
Ah, voilà. Donc, à chaque fois qu'il change d'optique, il prononce le mot frère qui est en hébreu, est un mot extrêmement affectueux. Voilà, c'est pas monsieur, c'est vraiment la fraternité juive.
Ah ben oui, verset 38, sachez-le donc frère.
C'est comme bro aujourd'hui pour les jeunes. Voilà.
Comme quoi
bro. Brother.
Bro.
Bro, les jeunes disent bro maintenant.
Et ça veut dire frère.
Oui, c'est rigolo.
Brother.
C'est rigolo. Mais ça vient des États-Unis, comme d'habitude. Hein. Donc, le découpage en trois est lié chaque fois à l'apostrophe frère. Ah, oui, oui. Comme s'il voulait souligner qu'il redemandait leur attention pour un nouvel argument. Donc le premier argument, et vous avez raison, c'est de résumer, mais alors très condensé, hein, l'histoire d'Israël. L'histoire qui part de l'élection en allant jusqu'à l'avènement du Messie. En gros, c'est ça, la partie 16 à 25. Alors on peut lui donner des titres très différents. Moi j'ai mis « Paul porte un regard d'ensemble sur les bienfaits de Dieu à l'égard de son peuple jusqu'à l'avènement du Messie ». Chacun pourrait inventer un titre, mais c'est au fond un résumé de l'histoire d'Israël et de l'intervention de Dieu pour ce peuple-là en particulier. Ensuite, il y a une deuxième grande partie, le verset 26 à 37. Est-ce que là, on tombe plus ou moins d'accord ?
Il fait...
Et là,
non, je sais pas.
Que la promesse a accomplie pour...
Alors, sans doute.
On est tous enfants de Dieu maintenant.
C'est la présentation de Jésus.
Par adoption grâce à Jésus.
Ok. Donc, au fond...
Et l'annonce de la résurrection.
Il annonce Jésus comme étant... Et en précisant que, bien que rejeté par les Juifs de l'époque, Jésus est présenté comme le Messie d'Israël, celui qui correspond aux promesses, le libérateur promis, le sauveur d'Israël, etc. Donc il n'a pas peur, dans cette deuxième partie de son discours, de leur dire, ben, vous savez, c'est passé ça à Jérusalem, mais en réalité, c'est quand même de lui dont il était question dans les prophètes que nous venons de lire. Tu vois, sous-entendu, il rattache tout ça. Bon, bien sûr, ici, encore une fois, rappelons-nous, Luc, il opère des synthèses. Hein. Il ne nous raconte pas tout de l'illustration de ce que Paul a pu raconter, mais on en sait l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'il ose dire, voilà, selon les prophètes, le Messie, c'est lui, et la preuve, c'est la résurrection, etc., etc. Bon, donc une deuxième grosse partie, et puis il termine, alors 38 à 41, on pourrait presque dire c'est une conclusion. La conclusion du discours. Ou la synthèse du tout, si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme...
Il y a l'annonce du pardon des péchés.
Oui, c'est ça. Dieu offre en Jésus le pardon des péchés.
Voilà.
Oui. Et l'appel à la foi.
Exactement.
En faisant mise en garde contre l'incrédulité.
Ok. Donc à la fois...
Face à la grâce de Dieu.
Dans la conclusion, l'annonce de la grâce du pardon offert en Jésus-Christ, sous-entendu. Et la foi nécessaire. Donc il faut adhérer. D'ailleurs, vous savez, en hébreu, c'est le mot adhérer qui serait le plus adéquat. Être disciple, c'est être adhérent. Donc si vous croyez en Jésus, vous devenez adhérent. Vous devez devenir adhérent. C'est pas simplement croire que Jésus est le Messie, voilà. Il faut le suivre. Donc c'est là que ça devient plus délicat dans le discours. Auprès des Juifs.
Oui, mais non,
parce que c'est comme si on leur disait, bon, il y avait ces liens, mais il faut quand même accorder de l'importance au fils, avec tout ce que ça a d'ambiguïté, puisqu'on dit fils de l'homme. Mm-hmm. Voilà, vous voyez, tout ces... Voilà, mais lui, il ose, hein, tranquille.
Ce que je voulais me dire, par rapport à adhérer la foi,
oui.
Ça me fait penser, dans l'Évangile, à « Seigneur, je crois, me protège mon manque de foi ». Et Chouraki traduit « Seigneur, j'adhère, me protège ma non-adhésion ».
Exactement. C'est très intéressant, si vous avez l'occasion, de lire les textes que Chouraki a traduits, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, d'ailleurs, parce qu'on retombe dans le côté, comment je dirais, assez carré de l'hébreu, si vous voulez, assez brut aussi, hein. Je vous avais déjà cité cet exemple, il y a des textes de l'Ancien Testament, vous ne putasserez pas avec les idoles, ça c'est clair, au moins là...
Non, oui, mais justement, il invente des mots, quoi. C'est un mot
oui,
qui n'existe
bien sûr,
pas en français.
Parce
quoi.
Que c'est impossible de traduire l'hébreu dans un français qui serait totalement correct et littéral.
C'est ça qui est un peu compliqué parfois, parce qu'il invente des mots, quoi.
Et puis c'est une langue...
En
hébreu, c'est une langue qui a peu de vocabulaire par rapport à la langue française, une langue très gutturale, une langue très rocailleuse, et un côté très direct. D'ailleurs, même aujourd'hui, papa peut en témoigner, en Israël, les gens parfois s'apostrophent rudement, ou même entre officiers et soldats. Ça peut être... Pour nous, ça serait de l'impolitesse, par exemple.
Dire,
mais là, on se tutoie et on se dit les choses...
Tout le monde s'appelle par les prénoms. Même à l'armée.
Même à l'armée,
oui.
Même ton officier.
Moi, on m'a présenté le chef d'état-major quand j'étais à l'école d'hébreu, en disant qui j'étais. Là, c'était l'époque où j'étais encore à Berlin. J'étais allé en Israël faire un mois d'études dans une école pour les immigrants, avec Josiane. Et puis la directrice de l'école a dit son prénom et mon prénom. Mm-hmm. Oui, elle n'a pas dit les noms. Mm-hmm. C'est normal. Puis enfin, les contacts sont beaucoup plus directs. Mm-hmm. Il n'y a pas de... je ne dis pas en Belgique, hein, mais en France. Monsieur le directeur, monsieur le... Les titres en Israël, ça n'existe pas.
Ouais. Tu en as la responsabilité, mais tu ne ronfles pas sur tes titres.
Non, oui.
J'ai vu le bourgmestre dimanche, je ne lui ai pas dit hey, « Hé, Thierry !» J'ai dit « Monsieur le bourgmestre !»
Ce sont nos habitudes, mais...
Mais c'est lié à la langue, hein. Faut bien se rendre compte de ça. L'hébreu favorise ce côté très direct. Où il n'y a pas cette espèce de voûte politesse et toutes ces choses n'existent pas.
Finalement,
mais c'est pas...
aussi.
Oui, finalement. D'une certaine manière. Bien qu'il y avait à une époque, dans le vieil anglais, des formules plus...
Oui,
quand même.
Les Hollandais sont un peu comme ça.
Les Flamands, moi, je dirais qu'ils sont les Flamands.
Je
ne
l'ai pas dit.
On vous voit,
oui,
c'est... mais ça dépend qui, quand
comme si tu dirais que tu es un camarade, quand même, parfois.
Ouais, ouais. Voilà, ouais.
Alors, là...
Je suis toujours obligé de dire Madame Visser. Hein.
Non, mais c'est vrai, ça n'a pas à voir avec un
nom. OK. Alors, il y a encore... Là, on a fait le découpage, on a essayé de donner des titres à ces trois parties. Je pense que l'étude du texte nous mènera peut-être un peu plus dans le détail, en profondeur, à mieux comprendre pourquoi on peut effectivement donner ces titres à ces différentes parties-là. Mais je voudrais quand même pointer une chose. C'est que dans les Actes des Apôtres, c'est le premier discours complet de Paul, adressé à des Juifs. Et ce sera l'unique. Parce qu'après, dans la suite des passages, on aura des bouts de discours. On n'aura jamais un discours aussi complet de lui. Donc il faut prendre cette étude du texte peut-être de manière plus précieuse, en ce sens que là, on a un truc complet qu'on va pouvoir survoler, adressé à des Juifs, prononcé en milieu juif. Et qui ressemble d'ailleurs, si vous l'avez lu un petit peu, vous verrez qu'il y a des accents très... je trouve plus le mot maintenant. J'allais dire Pierrick, mais non, c'est... De Pierre.
De Pierre,
bref,
des discours de Pierre.
Des discours de Pierre à Jérusalem, par exemple. Oui. Hein. On voit bien que l'ancrage en milieu juif fait que on doit présenter de cette manière les arguments. Prouver que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes, etc. C'est la trame pour un discours, ce que Paul ne tiendra pas quand il sera à Athènes ou ailleurs, dans des villes où il ne s'adresse pas à des juifs, par exemple. Donc, ils construisent le discours, et je dirais même que la toute première partie, me semble-t-il, de son discours ressemble un peu à ce qu'Étienne avait fait, à la manière dont Étienne s'était adressé aux Juifs. Donc il y a deux inspirations, à la fois celle de l'apôtre Pierre et celle d'Étienne, mais même si ce n'était pas inspiré de ce qu'il sait d'eux, c'est en tout cas inspiré de la Torah elle-même. Donc quelque part, il ne peut que dire des choses que les Juifs peuvent comprendre et entendre, surtout s'il faut en plus prouver qu'un certain Jésus de Nazareth est peut-être bien le Messie attendu et annoncé par les prophètes. Donc ça, c'est important. Et alors maintenant, je reviens pour terminer. Je ne sais pas quelle heure il est, mais on a encore du temps. Voilà, c'est bien. Sur la toute première partie, donc maintenant, dans le découpage qu'on a fait, nous, de 16 à 25, comment peut, ou quels seraient les arguments qu'on trouve dans ces quelques versets ? Quel serait le découpage, puisqu'on va l'étudier la fois prochaine ? Il y a un plan. Alors, tu avais fait remarquer tout à l'heure, Anne-Catherine, qu'il s'agissait du passé, de l'histoire, plus particulièrement, dans un premier temps, de quelle histoire ?
Des patriarches.
Oui, exactement. Donc, on en revient. Alors, quand on dit patriarche, on dit nécessairement élection. Il n'y a pas de patriarche, il n'y avait pas eu d'élection. On est bien d'accord. C'était tous des cousins, des petits nomades ou des gens sédentaires commerçants. Voilà, Ur en Chaldée, c'est vague, tu vois. Mais là, si on parle des patriarches, on est en train de dire qu'il y a eu un appel, donc qu'il y a quelque chose qui soude ce peuple, finalement. Donc, ça, le découpage, ce serait plutôt 16b jusqu'à 20, où on parle des bienfaits de Dieu au temps des patriarches, depuis les patriarches, en tout cas.
Oui, parce que finalement, il est nommé.
Exactement. Très simplement.
Il a choisi nos pères.
C'est pas long, mais tout y est, en condensé. Et ça va être de plus en plus condensé au fil des arguments. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais par exemple...
Il y a les rois, après.
Alors, les rois, mais ça se limite à qui, là-dedans ?
David. Saül et...
Oui.
Et David.
Exact. C'est ça, les rois ? Non, mais les rois d'Israël, il y en a eu un paquet. Israël et Judas, puisqu'après il y a eu la division. D'accord ? Donc, on n'en cite que deux sur toute la royauté. Et pourquoi, David, d'après vous ?
Mais David, parce que Jésus est fils de David.
Bien sûr. Ben oui. Donc, il évacue tous les autres rois, il prend un raccourci en disant finalement, pour prouver la messianité de Jésus, parlons essentiellement de David. Parlons de David comme élu, lui aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire, Saül, c'était pas le bon roi. Dieu l'a mis de côté, puis il en a choisi un, lui. Mm-hmm. Dieu qui choisit, il leur donne David, qui est pourtant pas, on le sait, dans l'histoire de David, c'est pas toujours triste non plus, mais enfin, le roi messianique par excellence.
Mais il rappelle en même temps aussi, entre guillemets, les chouchous du peuple. Ce sont les personnes
bien
qui
sûr.
Sont pas vénérées, mais... Alors, fortement respecté.
Oui, tout à fait. Mais pour quelle raison, d'après toi ? Je ne parle pas de la messianité ici, mais qu'est-ce qui fait que David sort du lot ? Pour un juif ? Je ne parle pas pour nous, parce que nous, c'est plus compliqué. Mais...
Parce que c'était un bon roi, un roi selon le cœur de Dieu ?
Alors, il y a ça. Il a quand même fait des choses extraordinaires pour Dieu. Il n'a pas fait que la guerre, mais aussi parce qu'il est...
Prévu le temple,
c'est pas lui
qui le fait.
Oui, il y a de ça aussi. Alors le temple, c'est important pour les Juifs.
Oui.
Et parce qu'il est tout simplement l'écrivain du psautier, d'une majorité des chants d'Israël. Donc nécessairement, tous les psaumes commencent par Corée, par David, tu vois. Mais on dit tout de suite qui est l'auteur du chant. Du chant qu'on chantait au temple, ou qu'on chantait dans les familles, au moment du Shabbat, ou au moment des fêtes. Donc nécessairement, David est incontournable. Mais il est d'autant plus incontournable aux yeux de Paul qu'il est celui qui va offrir le Messie. puisque le Messie est de la lignée davidique. Donc, il fait là un raccourci extraordinaire, mais lumineux, et aucun juif ne pourrait dire le contraire. On ne l'a pas lutté de lui dire, dites, les autres rois, tu les as mis où ? Non, non, les autres rois, c'est des nullards. Oui. Ils n'arrivent pas à la cheville de David. Et la plupart ont fait que des conneries, hein, les rois. Enfin, si vous lisez l'histoire des rois, c'est pas triste non plus. Hein.
Il y en a quand même quelques-uns.
De temps en temps, il y en a un qui sort du lot, aussi bien en Juda d'ailleurs qu'en Israël, qui reviennent à la loi, qui font appliquer les règles.
Ézéchias, c'était pas un bon roi.
Mais il y a eu des périodes néfastes, hein, même chez un même roi. Il y a des moments où ça dysfonctionne totalement, puis tout d'un coup, ils reviennent. C'est extraordinaire. Puis il y a aussi des trucs assez vaches. Hein. Des assassinats de rois, il y en a un paquet. Hein, monsieur. Si vous relisez l'histoire des rois, c'est pas triste. Hein. Bon, enfin bref, donc il vaut mieux passer ça sous détail et mettre l'accent sur David, ça c'est clair. Et la troisième partie alors, c'est les versets 23-25. Et là,
c'est l'annonce.
Alors là, si on retient que dans les lectures bibliques du jour, il y avait les prophètes, il fallait qu'il parle des prophètes. Puisqu'il est en train de commenter ce qui a été lu. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? C'est encore plus raccourci que raccourci. Alors, je vais peut-être...
Jean-Baptiste.
Oui. Donc, au fond, si on lit à partir de 23, je dirais... Je vais lire à partir de 22, hein, après l'avoir déposé, Dieu a suscité David comme roi, et puis il part sur les prophètes. C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait sortir Jésus, le sauveur d'Israël. Précédant sa venue, Jean, alors sous-entendu le Baptiste, avait déjà proclamé un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Et alors qu'il terminait sa course, donc la fin de vie de Jean-Baptiste, il disait « Qui supposez-vous que je suis ? Ce n'est pas moi, mais voici que vient après moi quelqu'un dont je ne suis pas digne de délier les sandales. » Donc au fond, pour couvrir toute l'épopée des prophéties bibliques concernant le Messie, il fait allusion, effectivement, on y reviendra, hein, à l'esprit des prophètes, si vous voulez, mais il met surtout l'accent sur Jean-Baptiste, en disant, mais finalement, le dernier des prophètes, celui qui pointe du doigt le Messie, celui qui le désigne, c'est Jean-Baptiste. Et la boucle est bouclée. Et donc, au fond, il arrive avec son discours, dans cette première partie du discours, à développer toutes ses idées sur le passé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, bah oui, maintenant, puisque c'est quelques années après la résurrection de Jésus que tout ça se passe. Hein, on est au tout début de la grande évangélisation. Donc voilà, il leur dit, mais c'est aussi simple que ça. Et la preuve, c'est qu'on est là. C'est qu'on vous visite. S'il n'y avait pas eu Jésus, on serait peut-être là par hasard, parce qu'on commerce, mais là, on est là pour vous parler de ça. Je trouve ça très très fin, personnellement. Voilà, je pense qu'on a comme ça un petit peu en tête les rails qui vont nous conduire dans le discours. Après, il faudra s'attaquer au discours lui-même, voir ce qu'on en pense.
Petite question, en dehors peut-être, mais pourquoi est-ce qu'on dit que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes ? Parce qu'il pointe Jésus ? Pourquoi Jean-Baptiste est-il considéré comme le plus grand des prophètes ?
Parce que tu sais qu'il y avait cette fameuse prophétie qui disait que Élie se repointerait. Donc la plupart des Juifs, pendant 400 ans en tout cas, ont attendu Élie. Mais ils ne l'ont jamais vu. Et finalement, le seul qui a jouer un peu ce rôle prophétique au moment de l'arrivée du Messie, en tout cas de Jésus, c'est Jean le Baptiste, qui les appelait à une purification, à une conversion, en disant tout le temps qu'il était le précurseur. Donc il ne fallait pas se focaliser sur lui. Il n'est pas le Messie, c'est ça que ça veut dire, hein, dans le texte là, quoi. Le plus grand parce que, à mon avis, le dernier.
Aussi.
Celui qui a la chance, c'est,
je sais pas, de l'avoir vu,
oui,
oui,
de l'avoir touché,
de savoir que c'est lui.
L'avoir baptisé,
oui.
tous les prophètes auraient bien.
Voilà, je pense qu'on a bien travaillé pour ce soir. On fera donc, on entrera dans le discours la prochaine fois, et surtout, si on a du temps, on parlera un peu des applications. Voilà.
Donc la semaine prochaine.